avec l'Observatoire sociopolitique diocésain.
Chers auditeurs de Radio Lapourdi, bonjour. Je souhaiterais aujourd'hui vous parler de la déclaration Dignitas Infinita sur la dignité humaine que le dicaster pour la doctrine de la foi a rendu public ou publié, je crois, le 8 avril dernier, c'est-à-dire tout récemment. C'est un document qui est donc signé du cardinal Fernandez, qui est le préfet de ce dicaster, mais qui a été signé, approuvé par le pape François, qui donc en a, comme on dit, ordonné la publication. Comme le titre l'indique, hein, la dignité infinie, ce document est largement centré, essentiellement centré sur le concept de dignité humaine. Et les trois premières parties du document, c'est-à-dire au moins la moitié des 20 et quelques pages de ce document, s'attardent sur la notion de dignité humaine, de manière assez intéressante, parce que il y a souvent bien des confusions autour de ce concept. En effet, on parle souvent de dignité morale d'un être, et on peut déchoir plus ou moins par le péché de cette dignité morale. Le péché, dit le document, peut blesser et obscurcir la dignité humaine sur le plan moral. De même, on parle très fréquemment de dignité sociale, c'est-à-dire que certaines conditions de vie, par exemple une extrême pauvreté, peuvent être indignes de la condition humaine, c'est-à-dire contraires à la dignité des hommes qui les subissent. Mais le document insiste surtout sur une notion qui peut paraître un peu abstraite, mais c'est la dignité ontologique de l'être humain, c'est-à-dire la dignité intrinsèque à la personne que personne, que nul ne peut jamais perdre, qui ne peut jamais être effacé, qui ne peut jamais être perdu ou être nié. Donc cette dignité ontologique de la personne, c'est un concept effectivement très important qu'il est possible de discerner, de comprendre par la simple raison. Oui, beaucoup de non-croyants reconnaissent bien entendu l'importance fondamentale de cette dignité de la personne humaine. Mais la révélation chrétienne ou la foi donne des raisons supplémentaires de s'attacher à cette notion de dignité de la personne humaine. D'abord, bien entendu, l'Ancien Testament, comme on dit, c'est-à-dire notamment le livre de la Genèse, qui rappelle que les hommes ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ensuite, le Nouveau Testament, ou plus précisément l'Évangile, d'abord par l'incarnation du Christ, parce que d'une certaine manière, l'incarnation, Dieu qui se fait homme, eh bien, c'est une confirmation de la dignité de l'homme, corps et âme. Et puis, après tout, la vie du Christ ne fait qu'affirmer la valeur et la dignité de tous les hommes, en particulier la dignité des pauvres et des exclus de son temps. Quand on voit la manière dont le Christ aborde un certain nombre de ses interlocuteurs qui sont des collecteurs d'impôts, considérés comme des collaborateurs, des femmes qui étaient à l'époque tenues à l'écart, les lépreux, des malades, des étrangers, eh bien on comprend que le message de l'Évangile, c'est celui de la défense de la dignité de la personne humaine. Donc voilà, ça c'est l'essentiel de la première partie du document, ou plus précisément d'ailleurs des trois premiers paragraphes du document. Il est rappelé en particulier d'ailleurs que cette dignité, c'est le fondement des droits et des devoirs de l'homme. Et en effet, c'est le fondement d'un document auquel l'Église se réfère fréquemment, beaucoup plus volontiers qu'à la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, qui est d'essence beaucoup plus laïque et révolutionnaire, l'Église se reconnaît, grosso modo, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui justement rappelle les principes essentiels de cette dignité de la personne humaine, c'est-à-dire inhérente à la nature humaine. C'est très important, mais en même temps, il faut éviter, dit le document, de tomber dans une mauvaise interprétation de la dignité de la personne humaine. Une mauvaise interprétation qui consisterait, par exemple, à absolutiser la liberté individuelle, faire de la liberté individuelle une sorte d'absolu. Le document écrit « La reconnaissance de la dignité humaine ne consiste nullement à absolutiser la liberté individuelle, car du fait du caractère relationnel de la personne, la dignité de l'être humain implique d'assumer des obligations à l'égard d'autrui. » Autrement dit, un individu, une personne, n'est pas un individu isolé, indépendant des autres. Il y a une sorte d'interdépendance des uns par rapport aux autres. Finalement, le Christ a voulu, comme il l'a révélé à Sainte Catherine de Sienne, que les hommes aient besoin les uns des autres, et on ne peut donc pas faire de sa liberté personnelle et individuelle une sorte de liberté arbitraire, au détriment souvent, bien entendu, de la liberté et de la dignité des autres. Et on ne peut pas non plus absolutiser la liberté pour une autre raison, qui est que cette liberté humaine, qui est un merveilleux cadeau de Dieu, dit le document, a besoin elle-même finalement d'être libérée d'un certain relativisme moral qui oublie qu'il y a des normes objectives du vrai, du bien et du beau, mais elle a également besoin, cette liberté humaine, d'être libérée des conditionnements moraux, sociaux ou des structures sociales qui peuvent la limiter, qui peuvent l'entraver ou qui peuvent la pervertir. Il est évident donc que la liberté peut être entravée par certaines injustices sociales, structurelles, c'est tout à fait compréhensible. Elle peut être également entravée par exemple, une certaine pression médiatique du prêt-à-penser, pour ne pas dire du politiquement correct, qui nous invite effectivement à partager les idées qui sont celles du monde et qui ne sont pas forcément conformes à la vérité, à la justice et à la dignité de la personne humaine. C'est ce que le document rappelle donc de manière tout à fait pertinente, me semble-t-il. Et puis, la quatrième partie du document donne des exemples plus concrets de violations de la dignité humaine, que je peux énumérer rapidement. C'est le drame de la pauvreté qui va à l'encontre de la dignité de la personne humaine. La guerre et les conflits qui ne résoudront pas les problèmes, mais les accroîtront forcément, rappelle le document. La situation des migrants, il est rappelé, bien entendu, en citant d'ailleurs Benoît XVI, que tout migrant est une personne humaine qui, en tant que telle, possède des droits fondamentaux inaliénables qui doivent être respectés par tous et en toutes circonstances. La traite des personnes, et en particulier la prostitution, est bien entendu contraire totalement à la dignité de la personne humaine. Les abus sexuels, sur lesquels le document s'étend peu, tout en rappelant néanmoins que les abus sexuels sont condamnables, y compris, et même davantage encore, lorsque ce phénomène touche l'Église catholique. Les violences faites aux femmes. La polygamie étant une violence faite à la dignité et à l'égalité de l'homme et de la femme. Mais aussi, la contrainte de l'avortement est une violence faite aux femmes, rappelle ce document, car bien souvent l'avortement est une solution qui va satisfaire l'égoïsme des hommes. Le document cite encore les violences numériques, avec notamment la diffusion de la pornographie ou de fausses nouvelles. Il évoque de manière un peu moins habituelle le problème du rejet des personnes handicapées, mais aussi la théorie du genre, nier la différence sexuelle, finalement, c'est s'opposer à la complémentarité de l'homme et de la femme et à leur dignité. Le changement de sexe, de ce point de vue-là, effectivement, pose un problème, car il faut savoir s'accepter tel que nous avons été créée dans cette complémentarité entre l'homme et la femme. Et puis le document s'étend beaucoup plus longuement sur l'avortement, l'euthanasie et le suicide assisté, qui sont des thèmes, bien entendu, fortement d'actualité, mais il le fait d'une manière intéressante, c'est-à-dire qu'il met l'accent sur les problèmes de sémantique, de manipulation du langage. Par exemple, à propos de l'avortement, le cardinal qui a rédigé cette déclaration écrit dénonce une terminologie ambiguë comme celle d'interruption de grossesse qui tend à cacher la véritable nature et à en atténuer la gravité dans l'opinion publique. Mais aucune parole, précise-t-il, ne réussit à changer la réalité des choses, à savoir que les enfants à naître sont les plus sans défense des innocents de tous, auxquels on veut nier la dignité humaine afin de pouvoir en faire ce que l'on veut, en leur retirant la vie et en promouvant des législations qui font que personne ne peut l'empêcher. Sur l'euthanasie et le suicide assisté, il y a un problème de sémantique. Il faut réaffirmer avec force que la souffrance ne fait pas perdre à la personne malade la dignité qui lui est propre de manière intrinsèque et inaliénable. Et c'est la raison pour laquelle les lois qu'on appelle « lois sur le droit de mourir dans la dignité » relèvent d'une sorte d'imposture, finalement, du langage, de manipulation du langage. Il convient donc, dit le document, de donner à chacun la possibilité de soulager ses souffrances par des soins palliatifs appropriés et en évitant tout acharnement thérapeutique ou toute intervention disproportionnée. Ce principe éthique concerne tout le monde, pas seulement les chrétiens ou les croyants. Il y a également un paragraphe qui va concerner la gestation pour autrui, qui n'est finalement qu'un rappel selon lequel l'Église prend position contre la pratique des mères porteuses par laquelle l'enfant devient un simple objet. Alors voilà, ce document, par certains côtés très intellectuel et très abstrait sur la dignité de la personne humaine, est très intéressant, un peu philosophique néanmoins. Il est beaucoup plus concret dans sa deuxième partie, à partir du chapitre 4. On peut, bien entendu, et on a intérêt à se reporter à ce document qu'on peut trouver sur le site du Vatican, c'est-à-dire vatican.va, pour en apprécier davantage le contenu et la philosophie. Je me contenterai donc de lire en guise de conclusion ou de résumer la conclusion que fait ce document. L'Église demande instamment aux États que le respect de la dignité et la défense des droits fondamentaux de l'homme soient placés au centre de l'engagement pour le bien commun et de tout système juridique.
Pour entrer en contact avec l'Observatoire sociopolitique du diocèse de Bayonne-Lescar-et-Oloron, 05 59 59 67 92.